Všechno je uskutečnitelné, když se člověk rozhodne to udělat, tak se to nakonec povede.
Je n'ai jamais rencontré le réalisateur du premier film qui m'a tant bouleversé et qui a fait ce que je suis aujourd'hui, un cinéaste.
Ça m'est arrivé quand j'avais à peine 20 ans où j'avais fait un premier film et le Parti communiste français avait vu mon film et ils m'ont amené, c'était en 73, et ils m'ont amené à Prague et à Bratislava et à Brno. Donc ils m'ont amené pour faire un petit tour, donc je suis venu ici, j'ai rencontré des jeunes cinéastes, donc ça a été pour moi la première fois où je quittais vraiment la France ou l'Europe en définitive, où j'avais des trucs pour aller dans un autre monde. On se souvient peut-être pas très bien, mais ici c'était un monde totalement différent du nôtre, ça m'avait beaucoup surpris. Puis ensuite je suis revenu plusieurs fois voir des amis ou des gens, etc. Et à chaque fois je restais 4-5 jours, 8 jours, mais je venais en train, je venais pas beaucoup en avion, c'était très long pour venir, c'était très loin, ça me paraissait être de l'autre côté du monde. Et puis ensuite, je suis arrivé en 88 pour faire un film qui se passait à moitié en France et à moitié en République tchèque. J'ai tourné ça à Barrandov. C'était un film pour la télévision française. Et là, je me suis fait des amis. Et j'ai été ensuite faire un film aux États-Unis. Et aux États-Unis, je venais de terminer à New York ce film. Et j'ai vu sur la télévision qu'il y avait pas mal de mouvements ici. Et j'ai pris l'avion, je suis venu directement de New York. Et je me suis installé à l'hôtel Esplanade, là, juste place Vassaslas. J'étais donc aux premières loges et j'y suis resté 3 semaines. À l'époque, on pouvait rester dans un hôtel à Prague 3 semaines, même si on n'avait pas énormément d'argent. Donc je suis venu là et je suis resté 3 semaines dans ce mouvement. Dans ce mouvement, je portais un peu par la ferveur et en me disant que tous ces gens avaient un avenir incroyable. Et puis finalement, j'ai produit des films parce que j'avais envie de continuer à aider, d'avoir une collaboration. Et j'ai produit des films tchèques, enfin coproduit des films tchèques exactement. Et j'ai fait Marianne de Petr Václav, Ziletky de Tite, j'ai fait Toyen, j'ai fait plusieurs films comme ça que j'ai amenés en France, qui ont été ensuite diffusés en France et ici aussi. Donc c'était une belle expérience. Et il y a quelques années, j'ai fait une collection pour Canal+ sur les cinémas extraordinaires à travers le monde. Et donc on a eu l'idée avec Teresa Bradečková de faire un épisode d'une heure qu'on a coproduit avec la télévision tchèque et qui était sur le Lucerna. Et donc l'histoire du Lucerna, donc l'histoire de la famille Havel évidemment, et aussi l'histoire de l'histoire de la République tchèque en général, puisque ça raconte exactement l'histoire depuis la Première République jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Donc c'était intéressant, le film a pas mal marché, on l'a diffusé à l'étranger dans pas mal de pays, en Nouvelle-Zélande par exemple, dans des endroits comme ça. Et finalement, la télévision tchèque, Teresa Bradečková, Alena Müllerová m'a dit « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Alors j'ai dit « vous savez, j'aimerais faire un Trinka, un hommage à Trinka, un hommage à ma manière, à la fois un peu personnel, puisque quand j'étais petit, les premiers films que j'ai vus, c'était des films de Trinka. »
20 let jsme nemohli ruku vidět v kinech.
Když něco říkáme, tak většinou chceme něco říct, nebo aspoň bychom měli se o tohle snažit.
Ce film est un chef-d'œuvre.
Donc j'ai voulu, j'ai écrit un scénario avec Teresa Bradečková qui était un peu à la recherche du premier film que j'ai vu quand j'étais enfant et qui s'appelait, le premier film s'appelait Bayaya. Et il y avait une coïncidence incroyable puisqu'en réalité, quelques années plus tard, enfin plus tard, en 67, j'ai vu La Main de Trinka. Et bon, j'ai fait le lien entre le premier film que j'avais vu et La Main, qui m'a changé beaucoup les idées par rapport au communisme. J'avais quelques idées, puisque quand même, on avait un peu quand même des nouvelles de ce qui se passait derrière le rideau de fer. Mais du coup, je me suis dit, voilà, je veux faire un film sur Trinka. Puis quand j'ai voulu commencer à y penser, c'était en 70, j'étais assez jeune et Trinka venait de mourir, donc c'était pas très commode. Donc j'ai remis ça à ce qu'on appelle au calendrier grec, comme on dit en français, c'est-à-dire à plus tard. Et puis de plus tard en plus tard, je suis arrivé 30 ans plus tard et j'ai fini par faire ce rêve extraordinaire, quoi. C'est pas 30 ans, c'est 50 ans plus tard. Trinka, effectivement, je pense quand même que c'était un génie. génie incroyable et que il est un peu méconnu pour différentes raisons que j'explique dans le film. Et je trouve que ça vaut la peine de le réhabiliter. Puis ça fait cette année, on est en 2019, ça fait 50 ans qu'il a disparu.
Joël Farge, vous avez collaboré sur le documentaire avec Teresa Bredechkova, dont le père, Jiří Bredečka, était le scénariste des films de Jiří Trnka. Pourriez-vous en dire plus sur votre collaboration ?
Donc l'idée, on a greffé sur le film Trnka un peu notre relation, puisque j'ai connu Teresa assez rapidement lorsque j'ai commencé à venir. C'était en 89 que je l'ai connue. Je crois que je l'ai rencontrée avant une ou deux fois. Elle était journaliste, donc elle est venue, comme elle était francophone, elle était venue m'interviewer sur des films que j'avais montrés, des films à moi que j'avais montrés ici. Et après 89, on s'est vu régulièrement, et comme on avait ce rendez-vous annuel au Festival de Cannes où elle venait chaque année, on se voyait, etc. Et donc quand on a fait le Lucerna ensemble, et évidemment comme je voulais faire le Trnka, ça tombait très bien parce qu'elle avait son père qui avait été le scénariste de Trnka et qui le connaissait très bien, qui avait travaillé avec lui. Donc on a inventé une sorte de relation affectueuse, amicale, entre un réalisateur français qui est joué par un acteur dans mon film, et puis Teresa qui joue son propre rôle, et une espèce d'amitié comme ça, affectueuse, longue, etc., et qui nous réunit et qui a un point commun, c'est Trnka.
Comment avez-vous conçu le film ?
J'ai construit autour de... Bon, ça peut choquer des gens, puisque en réalité, j'ai fait autour de mon histoire personnelle. Donc c'est quand même le sujet, c'est Trnka, bien entendu. C'est ses films et son œuvre et sa vie. Sa vie n'est pas très connue. Sa vie est quand même particulière parce qu'en réalité, il commence très pauvre. Il perd son père assez jeune. Il a des relations très violentes avec son père qui a fait la guerre et qui a dû être sans doute traumatisé par la guerre. Et il vient très jeune ici. Il est très talentueux puisqu'il n'a aucune formation. Il a été très peu à l'école et il arrive avec des dessins et des marionnettes, et il est engagé tout de suite, on le prend tout de suite à l'Improm, où il va à l'école des Beaux-Arts, de façon comme ça, les gens le voient et disent, celui-là, il ne faut pas qu'on le rate. Et donc, de pauvre, il devient assez vite riche. C'est un autre sujet que je traite, c'est qu'en définitive, les artistes des pays de l'Est souvent faisaient des films pour enfants parce que ça rapportait beaucoup d'argent. Et il n'y avait pas de problème avec la censure. Parce qu'en général, les autres films pour adultes, il y avait quand même toute cette histoire de censure, etc. Et c'était très mal commode. Tandis que les films pour enfants, finalement, le risque de la censure était faible. Et voilà. Donc il devient un homme riche, puissant, respecté, honoré. Et malgré tout, alors qu'il pourrait être dans son confort plus que bourgeois, disons, il décide de dénoncer le régime dans lequel il est, et il se saborde comme artiste, il fait la main et qui dénonce le régime et dans quelle servitude il se retrouve. Donc j'ai essayé de construire autour de mon histoire personnelle et d'essayer de la grande histoire aussi, de la petite histoire personnelle qui est la mienne, et puis la grande histoire de l'Europe en fait.
Dans le documentaire, on voit Teresa Bredechkova jouer son rôle, mais vous-même, vous êtes incarné par quelqu'un d'autre. Pourquoi ?
Parce que je déteste être acteur. Et au début, je ne voulais pas que Teresa le fasse, pour dire la vérité. Et elle m'a convaincu qu'elle pouvait pas, qu'une actrice ne pouvait pas prendre sa place et sa voix, en fait. Et du coup, elle a joué son propre rôle. Et moi, j'ai gardé l'idée au départ que c'était un acteur qui allait me représenter. Parce que j'aime pas faire l'acteur du tout. J'aime bien être derrière la caméra, ça me plaît beaucoup, mais faire l'acteur, ça me déplaît profondément. Bon, puis j'ai cherché quelqu'un qui pouvait aller avec Teresa, un acteur. Fallait pas un acteur connu français, parce que ça aurait été complètement décalé, quoi, ça n'aurait pas marché. Donc j'ai cherché cet acteur original du Guenin, que je connaissais un peu du cinéma, qui a fait pas mal de films, mais qui a fait beaucoup de théâtre. Et donc il avait à la fois un visage qui pouvait être... un peu le mien, enfin bon, il y avait une espèce d'esprit de famille, disons, dans ce que j'ai cherché. Et voilà, donc j'ai cherché, j'ai trouvé cet acteur, et puis j'en suis très content. Et il fallait qu'il ait une belle voix aussi, moi j'aime pas ma voix, donc c'était compliqué. Donc en fait, tout ça a fait que j'ai pris un acteur, voilà.
Joël Farge, quelle est l'image de Jiří Trnka en France? Était-il connu de son vivant du public français et européen?
Trnka, il a été exposé au Louvre, donc c'est quand même rare de voir un artiste étranger, tchèque en plus, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, je pense qu'il doit être le seul, exposé au Louvre. C'était pas rien, c'était quand même très important. Aujourd'hui, sont exposés au Louvre des artistes qui ont des carrures internationales très fortes et très puissantes. Donc lui, il a été exposé au Louvre. Donc il a eu une période où il était le grand génie de l'animation. Du temps des films de marionnettes. Il a été très respecté, ses films étaient bien distribués, et quand même, il était Malraux, le ministre, le grand écrivain français, mais qui était ministre de la Culture, a décidé de coproduire un film avec Trnka. Le problème qu'il y a eu en France, mais ça je ne l'ai pas dit dans le film, c'est que les Français auraient souhaité qu'il fasse une histoire française. Et en fait, il a fait Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et donc les Français étaient un peu dépités de voir, ils espéraient qu'il ferait un grand chef-d'œuvre français au cinéma, puis il a choisi de faire ce film-là. Et donc voilà, et ce qu'il faut voir, c'est que c'était quand même à un niveau européen un réalisateur très connu, parce que c'est toutes les stars de l'époque. Richard Burton a voulu absolument faire la version anglaise. Donc il a fait la version anglaise. En France, on a eu Jean de Sailly, qui était un acteur aussi très très connu, qui a fait Cocteau, après prêté sa voix plusieurs fois. Donc c'est des très grandes signatures qui montrent à quel point il était d'une certaine manière respecté, et puis qu'on considérait que son travail était de première importance, ce qui est vrai. Alors après, il a été oublié pour deux raisons. Oublié parce que le Parti communiste, de l'époque, l'a un peu effacé, compte tenu du fait qu'il avait raconté partout que le régime était ce qu'il était. Et donc, il a été un des premiers à dire la vérité, et il l'a dit de façon bizarre, à travers une fable, et une fable morale. Donc, les apparatchiks, ils n'ont pas compris ce que racontait l'histoire. Et il a envoyé le film un peu sous le manteau, Trnka, dans les festivals. Il n'a pas demandé l'autorisation. Donc ils se sont trouvés à Annecy avec ce film qui a eu un succès formidable, qui a été un coup de tonnerre incroyable. Ils se sont retrouvés avec ce film, ils n'ont pas apprécié que Trnka leur mette un couteau dans le dos, quoi. Et puis ensuite, donc en 69, il a été un peu effacé. Il est resté jusqu'en 89. En 89, ensuite, la société de production, le studio d'État, a été acheté par un oligarque. Donc les films sont restés dans une situation... juridique très imprécise, très difficile. À qui appartenait le film? Est-ce qu'il appartenait à Trnka, qui en était l'auteur, ou est-ce qu'il appartenait au studio? Et c'est le grand débat en Europe entre qui est le véritable détenteur des droits dans un film, si c'est l'auteur-réalisateur ou si c'est le producteur. Donc en France, on a tranché avec une loi assez claire, mais il y a des pays où ça ne l'est pas, et en particulier en République tchèque, c'est pas très clair cette histoire-là. Donc il y a la loi européenne, bien sûr, mais... Et le film est resté dans le studio. Puis bon, après, peu à peu, NFA a fait un travail de récupération. Ils ont numérisé un seul film, les légendes tchèques, je crois, et ils n'ont pas numérisé encore les autres. Il faut les restaurer, c'est long. Et c'est vrai que c'est des films qui sont un peu considérés ici comme des films pour enfants, parce que Trnka, en République tchèque, il est connu pour ses livres. Est connu pour ses livres. En France, il n'est pas connu pour ses livres, il est connu pour ses films. Donc c'est un peu l'envers. Donc la priorité pour les archives tchèques, c'était pas Trnka cinéaste. Alors ils sont en train de le faire, mais ça prend du temps, évidemment, et puis il faut de l'argent.
Byli jedny vrátka, za nimi zahrádka. V té zahrádce stromy, pojďme si hrát do ní.
Když je tam kocour. To je právě to nespravedlivé, když je takové horko, zahrada má být pro děti.
Aby si děti mohly sednout do stínu a byly hodné.
En fait, il y avait deux clans dans les années 60. Hein. On est toujours dans cet esprit du rideau de fer, enfin, avec une opposition très très violente et très hargneuse, enfin très difficile entre l'Est et l'Ouest. avec évidemment vous avez le Parti communiste français qui est quand même à l'époque très puissant, qui est maintenant un peu oublié, mais qui était très puissant, et la gauche française qui était pour Trinca. Donc il y avait les parents qui amenaient leurs enfants voir des films de Trinca. Mais ces parents-là, qui étaient assez importants, ils étaient en grand nombre, n'allaient pas voir les films de Disney. Disney, c'était le héros du capitalisme, du libéralisme. C'était le chantre de tout ça, de l'idéologie américaine. Donc, et par contre, de l'autre côté, ceux qui étaient de droite, ils allaient voir Disney, ils détestaient Trinca. Donc dans le Figaro, vous pouviez avoir des insultes sur Trinca en disant « le film est d'un ennui terrible ». Et puis à gauche, dans les lettres françaises, par exemple, on encensait Trinca et on disait le plus grand mal de Disney, c'était ça. Donc moi je faisais partie, et ma mère était très catholique, comme je le dis dans le film, mais il y avait une salle de cinéma dans la ville où j'habitais qui était la salle de cinéma de la paroisse. Donc on aurait dû aller voir des films un peu bien pensants, mais ma mère m'a emmené chez les communistes un peu plus loin, il fallait prendre la bicyclette, c'était un peu plus loin, parce que là on voyait des films beaucoup plus intéressants, et c'est là où j'ai vu les films de Trinca. Mais c'était très clivé, comme on dit maintenant, c'était très séparé. Il y avait les gens qui étaient d'un côté et les gens qui étaient de l'autre. Il y avait très peu de gens qui faisaient de va-et-vient entre les deux. J'ai bien compris que Bayaya, quand j'étais enfant, quand j'ai vu Bayaya, j'ai compris une chose, que j'explique un petit peu, mais j'ai compris une chose, c'est que j'avais une relation privilégiée avec ma mère, premièrement, et deuxièmement, j'ai compris que ce lien ne durerait pas toute la vie, enfin la mienne en tout cas. Et c'est ce qui est arrivé, bien entendu. Et donc j'avais ce sentiment à la fois d'affection pour ma mère et en même temps que ce sentiment qu'un jour ou l'autre je la perdrais. C'est le sentiment que j'ai eu. Alors je le reconstruis maintenant, bien sûr. Je le reconstruis, mais c'est bien ça. Et dans l'œuvre de Trinca, dans Bayaya, c'est exactement ça. Il faut qu'il tue sa mère pour se libérer dans le film. Il faut qu'il enlève. C'est très mystérieux ce qu'il raconte, mais en définitive, c'est très profond, hein, c'est très freudien. Hein. C'est pas du tout. C'est une relation, un enfant qui comprend qu'il faut tuer sa mère pour pouvoir devenir un adulte. C'est pas évident à comprendre, hein, c'est la vérité en vrai. Et donc c'est ce que j'ai dû comprendre quand j'ai vu le film. C'est ce que j'explique au jour d'aujourd'hui. Donc je me suis trouvé un lien avec Trinca. En plus, j'ai toujours trouvé chez Trinca une habileté absolument géniale dans l'utilisation de ces marionnettes entre ombre et lumière. C'est-à-dire que ces visages ne bougent pas, et pourtant, on projette nous-mêmes des émotions incroyables sur ces personnages qui sont des marionnettes avec des têtes qui ne bougent pas. Il n'y a aucune expression, la bouche ne bouge pas, les yeux ne s'agrandissent pas, etc. C'est le contraire du dessin animé image par image. Le film de marionnettes, c'est au contraire. Mais malgré tout, il y a une palette d'émotions, de passion et d'horreur. Enfin, tous les sentiments sont là. Les plus exacerbés, les plus forts et les plus subtils. Donc, il arrive à faire ça avec de l'ombre, de la lumière, des mouvements saccadés. C'est complètement prodigieux parce que c'est vraiment. Il a très peu d'éléments en réalité. Il a une poupée en bois, un petit costume, un petit décor, et puis il faut raconter l'humanité, il faut raconter le destin des gens, la vie des gens, l'amour, la haine, la violence, l'incertitude, enfin il y a une palette de sentiments invraisemblables, et donc plus on voit le film, plus on se rend compte que c'est fait de façon très subtile. Là, c'est la marque d'un génie.